Bonjour David, bonjour à tous. Coup dur pour le territoire mélois. Le groupe Bigard a en effet décidé de fermer Socopa, son abattoir de Selles-sur-Belle, une volonté qui touche directement plus de 200 salariés. Philippe Mouillet a été élu président de la commission des affaires sociales au Sénat. Une belle récompense pour l'ancien maire de Montcoutan qui est siégé déjà comme vice-président. Le FC Que Choisir des Deux-Sèvres alerte sur le manque de place pour la petite enfance avec une chute du nombre d'assistantes maternelles jugée inquiétante. William Lafleur en dédicace à la librairie Toircaise, brin de lecture demain samedi. L'ancien prof évoque dans son dernier ouvrage le mal-être, notamment des enseignants. L'association Graines de Liens a participé à un séminaire européen sur la paix et la démocratie. L'expérience sera utile, y compris localement. Et puis, le jeu de club du Bocage Bressuré prépare un week-end très animé sur les tatamis, mais aussi en coulisses avec son assemblée générale. Quant à la météo, il va faire beau cet après-midi. Après le dramatique incendie qui a coûté la vie à une personne dans la nuit du 20 au 21 septembre dernier, l'abattoir Socopa de Selles-sur-Belle était depuis à l'arrêt. Le couperet est donc tombé et c'est une nouvelle douche froide pour tout le Mélois. À l'issue d'un comité social et économique du plus important employeur privé du territoire, les 210 salariés ont en effet appris que le groupe Bigard, géant de l'agroalimentaire, à qui appartient l'entreprise, a décidé de ne pas rouvrir cette usine, la condamnant ainsi purement et simplement à la fermeture. Fabrice Michelet est le président de la communauté de communes Mélois en Poitou.
C'est un coup dur pour le territoire et c'est un nouveau coup dur puisque nous avons aussi perdu la base Intermarché il y a quelques mois, donc c'est vrai que ça fait beaucoup en peu de temps. On a eu bien évidemment un entretien avec les membres du groupe Bigard qui nous font état effectivement d'une baisse importante du nombre de porcs tués en France. Hein. Donc ils sont passés de 120 000, je crois, à 90 000 et donc sur les 10 abattoirs, ils ont des choix à faire. On peut le comprendre dans le contexte national, les gens mangent moins de viande, mais c'est vrai que pour notre territoire, l'important c'est de travailler avec eux pour rebondir demain.
Au-delà des 210 salariés touchés par la fermeture de Socopa, de nombreux sous-traitants vont être impactés par cette décision du groupe Bigard. Désormais, les priorités sont de deux ordres.
L'accompagnement des salariés. Il faut que le groupe Bigard soit en première ligne, et c'est leur obligation, et je crois qu'ils le feront bien évidemment, c'est accompagner tous les salariés pour essayer de retrouver donc un emploi pour chacun, parce que c'est vrai que ce soit au sein du groupe Bigard, mais surtout aussi pour notre territoire. Alors c'est vrai qu'on est dans un territoire où il y a peu de chômage, donc il y a beaucoup d'offres d'emploi vacantes, donc ça veut dire que là aussi, les uns les autres doivent être proactifs pour que chacun puisse retrouver sa place donc dans le monde économique. Et puis la deuxième chose, qui est peut-être du moyen terme, mais c'est on veut effectivement que le groupe Bigard s'investisse aussi dans le rebond que l'on espère pour qu'il y ait non pas une friche industrielle en plein centre de Selles-sur-Belle, mais de nouveau une entreprise quelle qu'elle soit, et donc que ce soit aussi au sein du groupe Bigard, ce que je ne crois pas, ou bien trouver d'autres alternatives.
Fabrice Michelet, le président de la communauté de communes du Mélois en Poitou, à propos de la décision du groupe Bigard de ne pas rouvrir son abattoir Socopa à Selles-sur-Belle après l'incendie qui avait frappé l'usine il y a une quinzaine de jours. Dramatique accident du travail en début de semaine sur l'hippodrome de Niort. Un homme de 39 ans a fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il se trouvait sur le toit d'un hangar. Originaire d'un pays au nord-est de l'Afrique, employé de la MIP, la mission pour l'insertion et pour l'emploi, ce dernier a été évacué par hélicoptère vers le CHU de Poitiers en urgence absolue. Il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Un homme de 54 ans a été gravement blessé hier matin vers 10h50 après une sortie de route sur la départementale 166 à hauteur de Frontenay-Rouen. Sa voiture a traversé les voies des deux sens de circulation avant de finir percuté violemment un platane. Les secours ont dû le désincarcérer avant qu'il ne soit héliporté vers le CHU de Poitiers. Philippe Mouillet a été élu président de la commission des affaires sociales au Sénat. D'ailleurs, cela ne faisait plus guère de doute depuis qu'il a été désigné par son parti, les Républicains, pour briguer la présidence de cette commission dont il était le vice-président depuis 2020. La commission des affaires sociales est l'une des 8 du Sénat. Une belle récompense pour l'ancien maire de Montcoutan.
Avant tout, comme une reconnaissance, je suis membre de cette commission depuis 9 ans, donc depuis que j'ai été élu sénateur. Et donc, je me suis beaucoup impliqué dans beaucoup de champs d'action de cette commission, que ce soit dans le domaine de la santé, du handicap, des politiques sociales. Et très naturellement, de par cette expérience, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être désigné président. Voilà.
Le champ d'action des commissions des affaires sociales est très vaste. Le financement de la sécurité sociale, la santé, le médico-social, la famille, la protection sociale, la solidarité et l'insertion, l'emploi et le travail ou encore la formation. formation professionnelle. Très impliqué dans un dossier en particulier, notamment l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ces derniers mois, Philippe Mouiller devra donc en prendre une certaine hauteur, mais le sénateur de Sévrien veut rester un homme de dossier.
Je crois qu'il y a trois niveaux. D'abord, il y a un niveau de politique générale qui est quand même dans le débat avec les politiques portées par le gouvernement, donc un débat d'échange, de construction, voire parfois de correction. Et puis c'est aussi ensuite un travail de fond sur un ensemble de dossiers, parce qu'on a besoin aujourd'hui de porter des politiques innovantes. On voit bien qu'il y a plein de domaines où aujourd'hui on est en difficulté en France sur ces sujets-là. Donc il faut qu'on puisse innover, qu'on puisse également travailler les chiffres, hein, parce qu'on est beaucoup également sous les aspects budgétaires. Et puis sur certains dossiers qui pour lesquels je suis très attaché, il restera toujours pour moi un travail de détail, notamment sur des dossiers qui préoccupent directement les habitants que je côtoie dans les Deux-Sèvres. Voilà, donc que ce soit dans le domaine du handicap ou des politiques sociales.
Philippe Mouiller, élu président de la commission des affaires sociales au Sénat, il répondait à Fabien Gazot. En Deux-Sèvres, l'UFC Que Choisir lance une alerte sur le manque de place pour la petite enfance. L'association de défense des consommateurs réclame la création d'un droit opposable à un mode de garde et la mise en place d'un service public de la petite enfance. Écoutez Francis Mathieu, le président départemental de l'UFC Que Choisir.
Les deux modes de garde essentiels sont les assistants maternels et les crèches. On est à 55,5 places pour 100 enfants en mode de garde assistant maternel, alors qu'au niveau national, ce n'est que 41%. Donc de ce point de vue-là, on est mieux placé. Par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est ce qui concerne les crèches, puisque le nombre de crèches n'est que de 12,9% d'enfants, alors qu'au niveau national, il est de 20,8%. Donc, ce qui fait que on se projette un peu et qui a fait qu'on est intervenu plus directement là-dessus, c'est que, dans le même temps, on se rend compte qu'il y a une diminution très très importante du nombre d'agréments d'assistants maternels. Et notamment dans les Deux-Sèvres, on en a perdu 612 agréments entre 2016 et 2020. Donc ça interroge, parce que comme c'est le mode de garde majoritaire, on peut se dire que dans les années à venir, on va connaître de très très graves problèmes dans les Deux-Sèvres.
Pour l'UFC Que Choisir, les solutions sont d'augmenter les places en crèche et où ? D'améliorer l'attractivité du métier d'assistante maternelle par une meilleure rémunération, par exemple. L'insuffisance de l'offre a de déplorables conséquences économiques pour les ménages, souligne l'association des consommateurs.
Il y a un certain nombre de parents, bon, souvent des mères d'ailleurs, qui n'ont pas d'autres moyens, gardent eux-mêmes ou elles-mêmes, en l'occurrence leurs enfants. Donc ce qui veut dire qu'il y a un problème d'employabilité, un impact direct sur l'emploi et sur l'employabilité des parents, et qui donc se traduit par une diminution évidemment des ressources familiales.
L'UFC Que Choisir a lancé l'alerte alors que se réunissait le comité départemental des services aux familles qui regroupe l'État, les collectivités, l'ARS, la CAF, la MSA, les gestionnaires d'établissements et des représentants d'usagers et de particuliers employeurs qui a rendu les conclusions suivantes. Si le département des Deux-Sèvres n'est aujourd'hui pas concerné par des problèmes majeurs liés à la qualité de l'accueil, certaines tensions du secteur, comme les difficultés à recruter de nouveaux professionnels, nécessitent la mobilisation de tous les services pour prévenir le risque. Fin de citation. La région Nouvelle-Aquitaine soutient les entreprises dans leur investissement. Lors de la dernière commission permanente, les élus ont en effet décidé d'attribuer 200 000 euros à Revaux Menuiserie à Combrant, qui va investir dans un centre d'usinage innovant et ses équipements annexes pour environ 6 millions d'euros. Cet équipement innovant sera unique en Europe. La région accorde également un peu plus de 105 000 euros à Arrivé Bélané, à Nieu-les-Aubiers, qui investit dans une nouvelle station de micro-dosage pour permettre la fabrication de nouvelles formules alimentaires pour animaux de ferme. La déception à Mel, la ville ne pourra pas s'inscrire dans l'expérimentation dispositif zéro chômeur. Lancé et porté par la municipalité, le projet devait avoir le soutien du conseil départemental, ce qui n'a pas été validé lors d'une réunion en commission permanente mercredi soir. Tout autre chose, William Laffer en dédicace à la librairie Toire 16 Brun de lecture demain samedi, alias Monsieur le Prof. Sur les réseaux sociaux, cet enseignant s'est fait connaître dans les années 2010 en écrivant sur divers blogs, puis sur Twitter, où il raconte ses anecdotes d'enseignant. Parallèlement, il publie plusieurs livres traitant de l'éducation et du métier d'enseignant. Dans son dernier ouvrage, l'ex-plus beau métier du monde, il dresse un état des lieux de l'institution en s'appuyant sur le témoignage de très nombreux collègues. William Lafleur.
Moi, mon but, c'est pas de faire peur, c'est juste voilà, de dresser le portrait d'une profession vue de l'intérieur. Vu que je suis suivi sur les réseaux sociaux par beaucoup d'enseignants, je leur ai proposé de participer à la rédaction de cet ouvrage. J'ai reçu plus de 2000 témoignages en 2 mois. Et ensuite, voilà, j'ai tout lu et j'en ai sélectionné une petite centaine. C'est des témoignages aussi bien de collègues du primaire, du collège, du lycée, mais également des AESH qui s'occupent des élèves en situation de handicap, CPE, chef d'établissement, voilà, pour avoir une vision assez globale du métier. Je crois que ce qui m'a le plus marqué, ouais, c'est que chacun de ces témoignages se termine en gros par j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, je trouve que ça a du sens, mais je ne me vois pas continuer. J'en peux plus et j'ai envie de partir. Il y a beaucoup de collègues qui se disent, moi je ne sais rien faire à part enseigner. Ce qui est faux, hein, rien qu'enseigner, c'est déjà utiliser des compétences assez variées. Et en fait, ils n'osent pas franchir le cap de la démission.
William Lafleur, auteur de L'ex plus beau métier du monde, paru chez Flammarion, en dédicace ce samedi à partir de 14h30 à la librairie Brun Lecture à Thouars. En rappel, l'association Les Cinglés vous invite à assister à un défilé de mode assuré par 30 femmes ayant ou ayant eu un cancer du sein ce vendredi à Montcoutant-sur-Sèvre. Une action qui s'inscrit bien entendu dans le cadre d'Octobre Rose. Si l'entrée sera libre et gratuite pour ce défilé, tout un chacun sera invité à verser une participation. Le rendez-vous est donné à la salle de la Chaînée à 19h30. C'est également ce soir le lancement de la seconde édition du festival Voix et Danse avec un bal-concert avec au programme des musiques et chants du Poitou autour de Perrine Vrignot. Rendez-vous à la salle de la Passerelle à Mauléon à 20h30. Comme chaque année, le deuxième dimanche d'octobre accueillera à Celles-sur-Belle le grand pèlerinage de rentrée du mouvement européen du scoutisme. 800 jeunes de la province Poitou, Limousin, Angoumois, Vendée, Osny, Saintonge, des guides et scouts d'Europe marcheront quelques kilomètres dimanche jusqu'à l'abbaye romane de Celles-sur-Belle, s'y retrouvant pour la messe de 14h45, présidée par Mgr Pascal Windsor, archevêque de Poitiers, avant qu'un joyeux rassemblement près de la réplique de la grotte de Lourdes ne clôture cette journée vers 16h30. L'association Graines de Liens a participé à un séminaire européen sur la paix et la démocratie par l'intermédiaire de Tanguy Vrignot, son coordinateur sur le territoire montcoutantais, qui a donc intégré la délégation française, invitée à participer à cette rencontre très enrichissante en Pologne.
J'avais été sélectionné pour faire partie des 12 membres de la délégation française sur un séminaire européen qui s'appelle YouPart et qui était co-organisé sur différents pays. Il y avait l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque et la France, où on s'est tous retrouvés en Pologne, dans la ville de Gdansk. Pour la thématique du séminaire, c'était la participation, la paix et la démocratie des jeunes dans notre pays.
Donc forcément, c'est beaucoup d'échanges, c'est très enrichissant.
Oui, complètement, c'est des échanges particuliers entre professionnels et jeunes de chaque pays, ce qui nous permet, nous, de réfléchir sur notre métier et sur notre position professionnelle. Et par la suite, on espère développer des partenariats européens et même régionaux avec les membres de la délégation française.
Oui, parce que ça a du sens avec ce que vous faites, vous, localement, avec Graines de Liens.
C'est ça, en fait, on était avec différents professionnels qui agissent en faveur des jeunes sur différentes actions, mais on a aussi des actions communes. Et du coup, ce qui nous permet à nous de vraiment comprendre ce qui se fait dans d'autres pays et ce qui fait même dans la France entière, quoi.
Graines de Liens agit auprès de la jeunesse, mais pas uniquement, comme le souligne toujours au micro de Fabien Gazo, Tanguy Vrignot.
Graines de Liens, c'est un espace de vie sociale qui a été créé en 2021 et qui agit en faveur de 3 publics, la jeunesse, la parentalité et les seniors du territoire montcoutantais. Par exemple, sur le volet jeunesse, on a eu 388 jeunes sur l'année passée où on les a retrouvés sur des activités jeunesse, sur des projets professionnels, sur des projets particuliers que chaque jeune a envie de mener sur son territoire. Sur le pôle parentalité, on a différentes actions, comme des ateliers à la parentalité qu'on organise une fois par mois avec différents intervenants. Et sur le volet senior, on propose aussi des activités seniors qui s'appellent Graines de Senior, qui permettent aux personnes âgées de rester mobiles et de rester engagées sur leur territoire, de leur commune.
Tanguy Vrignot, coordinateur de l'espace de vie sociale Graines de Liens sur le territoire montcoutantais. L'actualité sportive, le Judo Club du Bocage Bressuré se prépare à un week-end très animé, c'est peu dire, avec plusieurs rendez-vous sur les tatamis, mais aussi l'Assemblée Générale. Le club sera hyper mobilisé ces 7 et 8 octobre. Au programme, demain samedi, une découverte du Jiu-Jitsu brésilien et une animation Poussin Benjamin. Et puis le dimanche, le tournoi national cadet. Luc Grimaud est le président du club, club qui rayonne sur 6 sites, Bressuire, Cerisé, Mauléon, Nuet-les-Aubiers, Montcoutant-sur-Sèvre et Courlet.
On profite d'un aménagement un peu exceptionnel réel puisqu'on transforme le complexe métayer de Bressuire en un grand dojo pour accueillir trois temps forts. Une porte ouverte du Jiu-Jitsu brésilien qui est une nouvelle section du club là depuis 2 ans. Là aussi, dans ce grand dojo éphémère, les Benjamin Poussin à l'échelle départementale pourront venir en fait découvrir une autre facette du judo qu'ils connaissent à travers l'entraînement. C'est l'adversité avec des combats avec des enfants qu'ils ne connaissent pas. Donc les premières compétitions, c'est toujours beaucoup d'émotions pour les enfants. C'est plus une animation qu'une compétition. Pour les enfants, c'est vraiment une première rencontre.
Le dimanche, on aura toujours des jeunes, mais alors là, beaucoup plus aguerris, beaucoup plus dans la compétition. On a même les meilleurs, finalement, de l'Hexagone et même au-delà, le fameux tournoi national.
Voilà, c'est toujours un plaisir pour le JCBB de réussir à tenir cette organisation depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un labella. Ce sont des cadets et cadettes qui viennent chercher des points pour se qualifier pour les championnats de France. Des compétiteurs qui viennent de toute la France et au-delà, puisque là, on a une délégation suisse-allemande qui sera présente.
Luc Grimaud, le président du club, qui profitera de l'Assemblée Générale pour présenter le nouvel entraîneur, Anthony Fritsch. En tennis de table, la Romagne joue ce soir à Juramouré avec un effectif au complet à l'occasion de cette 3e journée du championnat de Pro A.